se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec le journaliste de Marianne Perricolégas, avec le propriétaire de Gide désormais, Jérôme Lavrieux, et le journaliste Fred Hermel. Dans un instant, nouveau débat dans Estelle Midi. On va se poser cette question, doit-on interdire la cigarette dans l'espace public, alors même qu'il y a de plus en plus d'espaces sans tabac en ville. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi, et on vous dira comment faire des économies grâce à des applis anti-inflation. Et oui, ça existe. À 14h, le boom des fast-food en France. Doit-on limiter le nombre d'établissements de restauration rapide dans les villes? Et puis à 14h30, RMC s'engage pour vous. On reviendra sur une nouvelle facette du scandale Orpea. L'entreprise ne paye plus ses salariés depuis 2 mois. On verra ce qu'on peut faire pour eux. Et puis on terminera avec les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
13h02 sur RMC, et on va s'intéresser tout de suite à l'augmentation du jour, et c'est celle des espaces sans tabac dans de nombreuses villes de France. Proximité des écoles, enceintes sportives, à Paris notamment, ça va devenir de plus en plus compliqué d'allumer une cigarette, Rémi.
Oui, et dernier exemple en date, le centre sportif Georges Carpentier. Il est situé dans le 13e arrondissement de Paris, et il est devenu depuis quelques jours le premier stade sans tabac de la capitale. Interdit désormais d'allumer une cigarette à la sortie du terrain, le tabac interdit dans l'enceinte du stade et à proximité immédiate, même si aucune verbalisation n'est prévue. La mairie compte sur le bon vouloir des fumeurs et sur des agents pour leur rappeler la règle, affichée sur des panneaux aux quatre coins du complexe, qui les remercie de ne pas fumer dans les espaces intérieurs et extérieurs du centre sportif. Une expérimentation, c'est la première fois dans une enceinte sportive ou à proximité, que la ville souhaite ensuite élargir à d'autres stades parisiens et équipements sportifs, manière aussi, selon elle, de promouvoir le sport santé dans le cadre des JO de 2024. C'est en fait une déclinaison du dispositif Espace sans tabac qui lui a été lancé en 2018 par la Ligue contre le cancer. À Paris, par exemple, fumer est interdit dans quelques 70 parcs et jardins de la ville. Là, il y a une amende, 38€ qui peut être infligé aux contrevenants dans un parc ou un jardin. Interdit également d'en griller une aux abords de plusieurs dizaines d'établissements scolaires parisiens. Et le même type de mesure a déjà été prise dans de nombreuses autres villes en France. Je donne quelques exemples, il y en a beaucoup plus, Bordeaux, Lyon ou encore Vannes et Douai.
Alors, doit-on interdire purement et simplement le tabac dans l'espace public, Perricolégas, plutôt que de faire des petites zones comme ça sans tabac?
Quelle va être la conséquence de cette mesure? Les gens vont fumer plus souvent dans leur milieu privé?
Bah, au moins, c'est leur problème.
Oui, mais donc ils vont empoisonner leurs enfants et leurs...
Oui, mais ça, c'est leur problème.
Au moins, ils m'empoisonneront pas, moi.
Mais oui. Est-ce que dans l'espace public, on se prend de la fumée quand on est dans un jardin public, sur un banc?
Non, mais t'as des gamins qui peuvent te voir fumer. Et donc, tu leur donnes de mauvaises images dès l'enfance, quoi.
Et si tu vas à la plage l'été, tu mets ta serviette, t'as un type qui vient fumer, il n'y a pas d'arrêté municipal qui interdit de fumer, tu passes l'après-midi avec une petite clope et en plus va jeter son mégot dans le sable, parce que comme il ne veut pas qu'on le voit, il va le planquer sous le sable et on va polluer les océans avec
donc,
ça.
C'est là où je voulais en venir, si c'est si grave et si tragique que ça, est-ce qu'on ne peut pas carrément interdire le tabac?
Oui, mais enfin, vous savez qu'il y a quelques lobbies en France qui font qu'on ne peut pas interdire le tabac,
Perico, je crois que vous le savez. Il y a une mesure hypocrite. Donc, cachez ce sein que je ne saurais voir. Voilà, vous ne fumez pas là où on peut vous voir. Vous avez le droit de fumer où vous voulez, continuez à consommer du tabac autant que vous voulez, on va augmenter les... Mais si, il y a...
Imagine, à côté d'un stade...
C'est comme ça que ça peut être interprété aussi.
Oui, voilà. Mais regarde, par exemple, tu vas voir ton gamin jouer au foot, ok? Oui. Un match de foot, ça dure 1h30, oui. C'est comme ça, donc en plus, t'as la mi-temps, etc. Ça veut dire qu'en fait, pendant, grosso modo, 3 heures, tu vas pas pouvoir fumer. si t'es un gros fumeur, tu fumes deux paquets de cigarettes par jour et que t'es obligé de t'arrêter pendant 3 heures, bah peut-être qu'après tu vas te rendre compte que t'es capable de t'arrêter pendant 3 heures et tu vas t'arrêter finalement un peu plus longtemps. Si t'as plus le droit de fumer dehors, tu pourras plus fumer deux paquets de cigarettes par jour, donc ça va être bon pour ta santé.
Qu'est-ce qui nous dit qu'ensuite on va pas dire vous n'avez pas le droit de fumer dans la rue non plus quand vous circulez?
Ah ben bah, espace public c'est la rue aussi.
Bah
donc ça veut dire vous fumez chez vous.
Bah oui, non, c'est un peu
ou
ça,
dans
oui.
des endroits où c'est autorisé.
Alors c'est quoi par exemple?
Je sais pas, mais tu arrives devant les locaux de RMC, t'as un endroit, c'est marqué désormais il est interdit de fumer à cet endroit parce que t'as les fenêtres des mecs qui travaillent qui sont juste au-dessus et tu dois aller fumer ailleurs.
Les rassemblements aussi.
Et ben et c'est pas plus mal.
Donc faut pas toucher au lobby du tabac, faut juste
ouvrir la petite. Mais manière tu y touches pas
parce que pour toucher au lobby du tabac. D'ailleurs c'est ce qui se fait depuis 20 ans. Depuis 20 ans, c'est interdit de fumer dans plus en plus d'endroits et les gens consomment de moins en moins, fument de moins en moins.
Si c'est aussi grave que ça, pourquoi autoriser à fumer puisque c'est mortel, c'est
dangereux.
Mais le lobby du shit fait que c'est interdit de fumer du shit, mais pourtant il y en a quand même qui le font, sauf que c'est interdit et oui, on essaye de réduire le plus possible.
Sauf que le shit n'est pas régulé par l'État, alors que le tabac, il y a quand même la CIDAC.
C'est très bien qu'il y a la prohibition, c'est ce qu'il y a de pire.
Rémi Barré, par exemple.
Il y a la contrebande.
Rémi Barré, vous qui êtes fumeur, si on n'avait plus le droit de fumer dans la rue, par exemple dans l'espace public, est-ce que ça vous limiterait votre consommation de tabac ou pas?
Ah bah oui, ça limiterait ma consommation et je serais totalement pour.
Ah oui d'accord. Alors que
bah oui, mais comme je pense à un certain nombre de fumeurs qui vont nous appeler, je pense qu'on n'est pas fiers en tout cas de fumer. On sait que c'est pas bon et que plus c'est limité mieux c'est. Moi avant je fumais dans les cafés. Oui. Je fumais bah oui, mais maintenant que je n'ai plus le droit depuis quelques années maintenant. Bah ça me gêne plus, je vais prendre un verre.
J'ai besoin d'efficacité, mais peut-être que c'est l'efficacité. J'ai un grand doute.
Fred Hermel, est-ce que ce serait une atteinte à la liberté de ne plus avoir le droit de fumer dehors?
Encore une fois, je suis le plus grand démocrate de cette table. Franchement, faut qu'on arrête de pomper les gens, quoi.
C'est-à-dire
alors moi, j'ai cigarette. Je ne fume pas. Moi, j'étais ravi qu'on puisse plus fumer dans les restos, dans les bars et tout ça, parce que c'était insupportable. Enfin, dehors, ça dérange pas grand monde, quoi. Enfin, c'est à l'air. Je termine, monsieur Lavrieux.
Oui, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur le président. Voilà. Vous avez la parole.
Merci. Non, mais franchement, moi, il y a un moment, on peut laisser un tout petit peu de liberté aux gens, quand même. Tu vois, enfin, excuse-moi, enfin, dans la rue, tu fumes dans la rue, tu déranges pas grand monde.
Ah, si, dans la rue, moi, tu me déranges. Parce que, par exemple, quand la rue, elle est bondée, et que tu te retrouves avec une brûlure de cigarette, parce que justement, la personne n'a pas fait attention.
Après, ça s'appelle
que tu marches derrière.
Ça s'appelle le respect d'autrui. Non, ce qui est dégueulasse, c'est les gens qui jettent les mégots par terre, etc. De la même manière que les gens qui jettent les papiers par terre. Voilà, c'est une question d'éducation. C'est pas le tabac, c'est une question de respect des autres et de respect de la vie en société. Après, franchement, mais dans la rue, qu'est-ce que ça dérange? Et puis après, l'exemple, est-ce que les enfants, parce qu'ils vont voir quelqu'un fumer, ils vont se mettre à fumer.
Oui.
Ça j'en doute. Déjà en fait le fait par exemple qu'on est totalement nettoyé, plein de films aujourd'hui,
ça, c'est vrai.
On voit plus les gens fumer, etc.
Ouais.
Mais moi je déteste ça.
Dans les endroits mal famés.
Ouais. Non mais excuse-moi, mais par exemple quand on voit
c'est les bad boys qui fument.
Je fais toujours référence à ça, les films de Claude Sauté. Mais c'est quoi un film de Claude Sauté sans la cigarette, etc.
Ça
fait partie de la société. Il y a des images.
Oui, mais non, il n'empêche.
Vous vous souvenez, Lucky Luke? Lucky Luke avant, il fumait. Mais après,
il avait un grain de paille.
Mais je veux dire.
Bon, bah alors.
Moi, je comprends, il faut lutter contre le tabac, etc. Mais il ne faut pas aller trop loin parce que ça en devient ridicule.
Voilà, vous avez énervé les Jérôme Lavrieux, allez-y.
Ouais, parce que j'aime bien, on sort toujours Lucky Luke, John Wayne, un cowboy, ça fume, etc.
Sauf
qu'on s'est rendu compte que John Wayne, s'il fumait des Marlboro, c'est parce que Marlboro filait du fric à John Wayne et au producteur du film. Pourquoi? Pas pour faire des belles images, mais pour nous inciter à fumer.
Bah oui.
Donc c'est pour ça qu'on l'a interdit et qu'on l'interdit dans les
films. Jérôme Lavrieux découvre la pub.
Non, je découvre qu'il est important de lutter contre certains lobbies.
Alors on est avec David qui nous appelle de Mont-Doubleau dans le Loir-et-Cher. Bonjour David.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour David.
Et merci d'être avec nous David dans l'émission. David, est-ce que ce serait une bonne chose de ne plus pouvoir fumer à l'extérieur en France?
Vous rigolez ou quoi?
C'est-à-dire
franchement, excusez-moi, mais où est-ce qu'on fume alors? Parce que
chez vous,
chez vous, David.
Ah, chez moi? Non, non, pas chez moi, parce que
pourquoi?
En fait, déjà j'ai une fille et donc je fume pas dans la maison, je fume à l'extérieur parce que
pour embêter les autres.
Non, mais voilà. Ça embête pas les autres.
Exactement. Non, je rigole.
Quand on est en train de faire des travaux à la maison, il y a un entrepreneur qui est venu et qui m'a dit monsieur, ça sent la cigarette chez vous. Bah en fait, je veux pas travailler chez vous parce que en fait, je ne suis non fumeur et donc je ne veux pas travailler chez vous. Donc voilà, en fait, où est-ce qu'on fume? Où est-ce qu'on peut fumer? Je ne fume pas dans les abribus, je ne fume pas par respect par tout le monde, je ne fume pas dans les lieux publics. Mais alors, où est-ce qu'on fume? On peut pas fumer chez soi parce que, enfin, par respect.
Vous fumez où, vous, David?
Dans mon jardin.
Ah vous aurez le droit.
Dans mon jardin.
Mais parce
qu'il a la chance d'avoir un jardin, David. La plupart des gens n'ont pas de jardin.
Allez-y, David.
Est-ce que j'aurai le droit?
Ah bah oui, non, bah, c'est pas l'espace public.
Pour l'instant. Pour l'instant.
Mais votre jardin, vous aurez le droit.
Quand je m'en vais travailler à pied, donc c'est-à-dire que dans la rue, en fait, j'aurai pas le droit de fumer.
Bah, c'est un peu ça.
Au Japon, c'est le cas, et il y a des espaces fumeurs.
C'est ça? Vous irez dans un parc?
Au Japon, c'est le cas, on n'a pas le droit de fumer dans l'espace public, et il y a des espaces, des petits coins qui sont réservés aux fumeurs.
Mais attendez, mais.
C'est comme les parcs canins dans les parcs, mais il y aura un parc fumeur.
En fait, le truc, c'est qu'on veut. En fait, le truc, c'est que tout le monde arrête de fumer.
Ouais.
D'accord?
Hein, ouais.
Sans le dire. Donc en fait, moins de taxes pour l'État, parce qu'en fait...
ça couvre voilà, pas.
Les lobbies du tabac, vous croyez franchement...
Oui, mais ça coûtera moins cher à la Sécu, David. Oui. Et en fait, ça, les fumeurs coûtent plus cher à la Sécu que ce qu'ils ne rapportent.
Ben oui.
Ah bon,
vous êtes Oui, c'est sûr.
Et on préfère vous garder longtemps en bonne santé plutôt qu'avec une maladie au bout de 30 ans ou 40 ans.
David nous appelle souvent sur Estelle Midi, donc on espère le garder en bonne santé. Mais David, on vous sent très remonté quand même, hein.
Mais non, mais oui, parce que je suis désolé, qu'on fume pas dans les abribus, je comprends. Qu'on fume pas dans les lieux publics, je comprends. Mais qu'on puisse pas fumer dans la rue, excusez-moi, la rue c'est à tout le monde. Et bon, d'accord, quelqu'un qui me suit dans la rue et qui sent la fumée de cigarette, je suppose que ça doit pas être très agréable. Mais par contre, on supprime tout, quoi. On n'a pas le droit de boire une canette de bière dans la rue. On n'a pas le droit de plus. Maintenant, ça va plus être fumé, etc. Moi, ça, franchement.
Vous avez essayé d'arrêter de fumer, David, un jour?
Oui, j'ai arrêté pendant plus de 6 mois, mais mon frangin a fait un AVC et j'ai repris. Donc voilà. Mais voilà, on avait. Alors, pour moi, la rue, c'est la liberté de tout le monde et on peut faire à peu près ce qu'on veut, mais presque tout ce qu'on veut.
Non.
Et,
bah
plus,
non.
Ça va, et plus ça va, plus on restreint les choses. Plus on coupe plus ou moins tout. Alors, c'est plus la cigarette, c'est plus une bière sur la rue parce que voilà, c'est pas bien.
Enfin, il y a peu de gens qui boivent des bières dans la rue. Enfin, je veux dire, David.
Faudra plus promener son chien parce qu'il fait popo sur la rue.
J'allais le dire.
Enfin, excuse-moi.
Mais si vous ramassez, il n'y a pas de problème.
Votre chien n'a pas le droit de faire popo dans la rue, comme vous dites, David. Ah, bah, ça, c'est illégal.
Si, il a le droit. Il faut ramasser.
Il faut ramasser. Bah
oui,
c'est illégal. Tu risques une amende.
Bah oui, mais il faut ramasser.
Non, mais bientôt, on n'aura même plus le droit de pisser dans la campagne. De temps en temps, un homme se soulage. Vous
n'avez pas le droit de pisser dans la rue non plus, comme vous dites. Vous savez, c'est légal aussi.
Tout ça, c'est terminé.
Ça va, il y a autre chose à faire dans la rue.
Je vais mettre des couches, puis voilà, terminé.
Non, mais enfin, c'est incroyable.
Non, mais c'est tellement merveilleux de pisser dans la campagne.
Dans la campagne, personne ne va te verbaliser.
Dans la rue, avec les
pires. Donne-nous ton adresse qu'on aille pisser devant chez toi.
Oui, c'est ça.
On va voir si ça te plaît.
Qu'on aille fumer des clopes sous ta fenêtre.
On déshumanise.
C'est un peu trop là. On veut faire de nous des espèces de gens totalement aseptisés, ça me fait peur.
Merci David d'avoir été avec nous en tout cas.
Mais de rien.
C'était un
plaisir.
Pour finir, quand je fume dans la rue et que j'écrase mon mégot, je ramasse. D'accord.
Très bien, David.
Tout le monde était comme vous, il n'y aurait pas de problème de cohabitation.
Sous le donjon de mon doubleau, il n'y a aucun risque, de toutes les manières.
Merci, David. Oui, Rémi Paris.
Et pour répondre à David, les recettes fiscales du tabac en France, c'est une dizaine de milliards d'euros par an, suivant les années. Moi, j'ai un chiffre là qui date de 2014. Bon, c'était 12 milliards. Oui, mais 12 milliards. Le coût direct du tabagisme pour la sécurité sociale, c'est vraiment le coût direct. Les maladies, etc., l'hospitalisation, c'est 26 milliards d'euros.
Sans compter le coût direct pour les collectivités qui doivent ramasser les mégots et les donner à traiter.
Évidemment.
C'est rien par rapport à la malbouffe que déverse la grande distribution.
Mais ça, on en parlera à 14h. Loïc Josserand est notre invité sur ce débat. Il est président de l'Alliance contre le tabac et professeur de santé publique. Bonjour Loïc Josserand.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. On se pose cette question, parce que c'est absolument pas une initiative du gouvernement ou quoi, mais faut-il interdire le tabac dans l'espace public, dans tout l'espace public, c'est d'ailleurs la rue comprise. Est-ce que vous y seriez favorable?
Alors, je pense que ça serait... On a entendu là un certain nombre d'éléments. Je pense que ça serait effectivement extrêmement compliqué, même si sur le fond, ça serait peut-être effectivement très intéressant. Oui. Et qu'on le sait très bien que plus on restreint les zones fumeurs et plus l'envie, comme ça a été dit par quelqu'un, l'envie de fumer va être peu présente. En revanche, aujourd'hui, on est à un quart de la population française qui fume toujours. Et comme l'a dit l'auditeur précédent, il est effectivement difficile et ça serait extrêmement compliqué d'arriver à une interdiction comme ça aussi brutalement et aussi rapidement. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on soit dans une logique de dénormalisation du comportement et du tabac dans ces espaces publics, de façon à ce que plutôt spontanément, les gens n'aient plus envie de fumer et qu'on ait un nombre de fumeurs qui soit de plus en plus faible, qui finalement, de fait, le tabagisme dans les espaces publics finit par disparaître tout seul, quoi. Donc c'est plutôt ça qu'il faut tendre, parce que ça fait aujourd'hui plus d'un siècle qu'on nous explique que fumer est une liberté. Donc fumer n'est pas une liberté, fumer est une dépendance, ce qui sont deux choses totalement différentes. Est-ce que vous auriez expliqué qu'un héroïnomane que c'est une liberté ou à un alcoolique que c'est une liberté?
La différence, c'est que l'héroïne est illégale, alors que le tabac est légal, donc il y a quand même une grosse différence.
Non, ça je suis d'accord avec vous, mais si vous prenez l'exemple de l'alcool, vous verrez vite que l'alcool n'est pas fausse. Même si on a le droit de boire, quand on est dépendant à un produit, on dépasse le stade de la liberté. Et là, sur le tabac, on est exactement dans ce modèle-là, quoi. Donc c'est ça, la liberté, c'est une construction sociale qu'on nous impose depuis un certain nombre de décennies aujourd'hui, quoi.
Mais Loïc Josserand, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'espaces sans tabac en ville, hein. Rémi on a parlé, il y en a de plus en plus aux abords des écoles, aux abords des stades. Est-ce qu'il faut élargir ça à la vapoteuse également, parce qu'on dit, c'est pour pas donner de mauvais exemples aux enfants, mais la vapoteuse c'est pas non plus un bon exemple, donc qu'est-ce qu'on fait?
Alors, on n'y a pas que l'exemple hein, dans cette l'exemplarité dans cette interdiction d'espaces, dans l'interdiction du tabac dans des espaces, hein, et notamment ces histoires de parcs sans tabac, de plages sans tabac, où là effectivement on n'est pas sur le tabagisme passif, on est effectivement sur cette logique de dénormalisation qui fait que le moment sympa qu'on passe, le moment agréable qu'on a, on est dans quelque chose qui est fondé sur la relation à l'autre, sur la relation humaine avec les gens qu'on apprécie, qu'on aime. C'est ça qui fait l'intérêt de ce moment-là et pas la clope qu'on est en train de fumer. Donc on voit disparaître à ce moment-là le tabac et ça paraît naturel à tout le monde. La vapoteuse, c'est encore autre chose. Il y a effectivement dans la vapoteuse une forme de normalisation de la fumée qui est là. Ouais. Alors, je sais que je vais m'attirer des foudres de certains en disant ça, mais il y a une forme de normalisation de voir de la fumée. Quand on est loin, à distance, et qu'on voit pas que c'est une vapoteuse, ça reste de la fumée. Et donc, effectivement, ça amène les autres, ceux qui ne sont pas vapoteurs, à fumer. Et après, quand on est toujours, quand on est vapoteur et qu'on continue encore à consommer de la nicotine, on reste dépendant à la nicotine et on entretient sa dépendance. Il faut quand même rappeler qu'une très large majorité des vapoteurs sont des vapofumeurs, quoi. Oui. Donc en réalité, on ne fait qu'entretenir sa dépendance sans être dans une logique de sevrage. Celui qui est dans une logique de sevrage, c'est encore autre chose. Et je pense que lui, il aura effectivement à cœur de respecter ses endroits sans tabagisme.
Merci beaucoup Loïc Josserand, en tout cas, d'avoir été avec nous, président de l'Alliance contre le tabac et professeur de santé publique. Et vous avez plein de messages, Rémi, sur l'appli RMC.
Allez, j'ai cet exemple, par exemple, de Rayleigh qui nous écrit sur Direct Studio. Bonjour, c'est une super idée. Je suis un ancien fumeur, je me fichais des autres à l'époque où je fumais. Depuis que j'ai arrêté, ça fait 5 ans maintenant, je revis et je respecte encore plus les espaces publics et encore mieux les installations sportives. Je suis complètement pour. Autre exemple de Nicolas qui nous dit, on l'avait évoqué tout à l'heure d'ailleurs, un stade sans tabac, ça devrait être la base, puisqu'on parle de son stade, le premier stade sportif à Paris qui a interdit le tabac. Mon gamin a fait du foot et quand je voyais les parents et pire, les éducateurs clope au bec, ça me mettait hors de moi.
On est avec Arnaud qui nous appelle de Mulhouse. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Et vous Arnaud, vous seriez favorable à l'interdiction du tabac dans l'espace public, pourquoi ?
Ah oui, totalement, ouais. Bah écoutez, justement, moi je suis non-fumeur et je pense que les fumeurs ne s'en rendent pas compte, mais c'est insupportable. Je vous donne un exemple, vous êtes dans un magasin, vous pouvez pas faire un pas en dehors du magasin. Tout le monde fume à la sortie. Oh. Vous prenez leur fumée dans le nez, ça rentre dans le magasin.
Bah, c'est moi, la pause, souvent, la pause oui, pour les vendeurs et tout ça. Oui.
Ouais. Bah, ouais, puis même, je veux dire, même les gens, parce que c'est pareil, c'est un autre débat, mais je veux dire, les gens qui fument un paquet, deux paquets par jour, c'est quand même une dépendance. J'entendais tout à l'heure. C'est quand même des gens qui sont malades.
C'est leur problème. Mais franchement, Arnaud, je suis pas fumeur, mais c'est leur problème.
Oui, mais si ça gêne Arnaud.
J'ai pas que ça. Mais qui se prennent un cancer, c'est leur problème. Mais moi, j'ai pas à me choper.
Attends,
Arnaud, moi, je peux pas faire une seule sortie avec mes enfants. Moi, j'ai deux enfants en bas âge. Je peux pas faire une sortie sans qu'ils se prennent des fumées plein le nez, quoi.
Ouais, là, vous êtes à Mulhouse, Arnaud, donc ça veut dire que vous allez vraiment dans les endroits où il y a beaucoup de monde, parce que, enfin, j'ai quand même l'impression, moi, qu'il y a moins de gens qui fument dehors dans la rue, par exemple, et j'ai pas l'impression, et pourtant je suis non fumeuse, et donc j'aime pas forcément l'odeur de la cigarette, mais j'ai pas l'impression d'être enfumée quand même, Arnaud. Vous avez l'impression avec vos enfants d'être enfumée carrément.
Bah, sincèrement, la moindre sortie que vous faites, oui, vous allez dans un stade, que ce soit voir un match, faire une compétition sportive, quoi que ce soit, tout le monde fume. Il suffit que vous soyez à côté d'un fumeur, vous en prenez plein la tronche.
Oui, mais quand vous lui dites, Arnaud, vous lui dites, excusez-moi, est-ce que vous pourriez fumer soit de l'autre côté, la fumée me gêne, a priori, la personne dit, oh, pardon, et puis écrase sa cigarette.
Honnêtement, très rarement, parce que je vais même en venir sur un autre sujet, c'est que la vapoteuse, on en pense qu'on en veut, à la base, c'est une bonne idée, sauf qu'aujourd'hui, je trouve que les gens qui vapotent se permettent de fumer même à l'intérieur. En fait, c'est cette hypocrisie-là qui me dérange. Moi, personnellement, je n'aime pas la fumée. J'ai pas envie de m'en prendre plein le nez quand je suis dans un parc, quand je fais une sortie, quand je suis au boulot, quand je sors d'un magasin. Enfin, franchement, après qu'il y ait des lieux pour fumer, je veux bien. Mais fumer dans l'espace public, non, quoi. Et je vous passe tous les gens qui promènent leur bébé avec leur landau, quoi. Je veux dire, les premiers qui prennent la, les premiers qui prennent la fumée.
Ouais, mais alors ça, après, c'est leurs enfants. Ça, bon. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud, pour ce point de vue. Vous vouliez rajouter quelque chose, Jérôme Lavrieux?
Oui. Quand vous dites tout à l'heure, si c'est, il a un cancer, c'est Rémi, c'est son problème. Ben non, les chiffres qu'a donné Rémi, c'est mon problème aussi, en tant que contribuable et en tant que cotisant.
Mais quand si dans ce cas-là, tu bois du vin aussi, et on va te dire.
J'en bois modérément.
Mais qui sait, parce qu'il y a des gens qui boivent beaucoup et qui sont jamais malades, des gens qui boivent un petit peu de vin soigner. Et qui sont malades.
Je suis d'accord.
Non, mais cette logique-là me paraît antidémocratique, c'est-à-dire en disant
n'exagère
que tu
pas.
Coûtes... Non, non, si tu dis, non, mais si tu dis, attention, toi, tu me coûtes de l'argent avec la sécu, etc. Ouais, enfin, la sécu sociale, elle est universelle, tu comprends, donc... on ne peut pas faire de différence entre les gens.
Je paye. S'il y avait un peu moins de malades, ce serait mieux quand même.
Le fumeur, il paye aussi pour toi. J'espère que tu l'auras pas. Bien sûr, il n'aura rien à voir avec le truc. Voilà, donc
c'est dangereux. On est pas loin de l'étoile sur le plastron pour les fumeurs. Hein.
Oh là non, on n'exagère pas.
Je veux dire de les désigner en disant attention.
Mais
ça va venir. Ça va venir. On les montre du doigt. Un jour, ça sera le vin au restaurant. Puis un jour, ça sera le vin au restaurant.
C'est n'importe quoi.
Pas droit de boire le vin au restaurant.
Mais arrête. Les fumeurs n'ont pas besoin d'avoir un signe distinctif. Si tu les vois avec la cigarette à la main,
et puis ils sentent.
J'en
fais partie.
Pas besoin de les désigner, tu les vois tout de suite.
C'est pas l'intérêt qu'on jette sur des citoyens comme
oui,
ça.
Oui, mais on dit pas ça. Tu dis pas ça parce que tu dis que c'est une étoile. Parce que tu fumes, ça veut dire que celui qui t'impose de pas fumer, c'est celui qui t'impose de porter une étoile.
Je ne compare pas, je dis qu'il y a une forme de discrimination et de rejet, d'exclusion. Voilà.
C'est mieux déjà.
On est avec Guy qui nous appelle, de Paris. Bonjour Guy.
Oui, bonjour Estelle.
Guy, vous êtes un ancien fumeur?
Je suis un ancien fumeur, oui. J'ai fumé il y a à peu près 45 ans.
D'accord.
J'ai arrêté brutalement, du jour au lendemain. J'ai dit,
bravo.
J'ai fait un petit peu. J'ai dit, bon, je vais m'arrêter. J'ai gardé mon paquet de cigarettes pendant 6 mois dans la poche de ma veste.
Ouais.
Et quand je changeais de veste, je remettais dedans jusqu'au jour où quelqu'un m'a demandé une cigarette, je lui ai donné le paquet et j'ai arrêté. Et c'est vrai que je suis peut-être devenu insupportable vis-à-vis des fumeurs, mais ils ont un comportement qui manque complètement. Alors, on parle de liberté. Je suis désolé, mais la liberté, c'est la liberté de pouvoir circuler dans la rue sans avoir de la fumée pleine de nicotine qui vous retombe sur la figure. C'est ce que vous êtes derrière. Donc, j'ai eu des occasions aussi où j'ai été interpellé un couple assis à une table de café avec un bébé dans les bras et le mari est en train de fumer. Alors je m'approche, je lui dis
c'est son problème.
Votre enfant ? Il dit c'est votre enfant ? Il m'a dit oui, mais je lui dis vous voulez le tuer, c'est normal ?
Bon, enfin non, mais
c'est
son
problème.
Oui, mais enfin vous exagérez un peu. Enfin,
mais c'est peut-être exagéré.
Oui.
Mais il n'empêche que c'est vrai. Ils sont. On parle de liberté. Je suis désolé. Ma liberté à moi de ne pas en prendre de fumer dans la figure. Voilà.
Oui, mais on en prend quand même assez peu, Guy. Non, mais je comprends. Ça peut arriver.
Surtout les anciens fumeurs. Alors, mais j'ai remarqué ça. C'est intéressant parce que Guy est un ancien fumeur.
Oui.
Il n'y a pas plus radical que les anciens fumeurs, qui sont beaucoup plus radicaux que les non fumeurs.
Guy n'a pas l'air radical.
Ah bah non.
En fait, je suis même un. Ma culture, moi, j'ai poussé les gens à arrêter de fumer. J'avais un jeune copain au travail, on jouait au tennis ensemble, et puis on est c'était une amitié, puis j'ai dit, mais arrête de fumer, tu te rends pas compte. Il dit même, il dit, mais comment elle fait ta femme pour vivre avec toi? Comment tu peux supporter, on peut supporter, parce qu'un fumeur, vous savez comme moi, qu'un fumeur, un tabac froid, mais c'est affreux, c'est insupportable.
Mais on sent beaucoup moins le tabac quand même. Hein. Avant, c'était horrible, vous savez, vous sortiez de boîte de nuit, c'était.
Ouais, mais le problème, mais c'est un gros problème, c'est que maintenant, ça sent la sueur dans les boîtes de nuit.
Je n'y vais plus, je n'ai plus l'âge.
Non, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit.
Oui, c'est ça, oui. Okay.
Non, mais avant, ça sentait la fumée. Sauf que maintenant, dans les
particules
les
odeurs des fines gens... que l'on respire par milliards de mètres cubes chaque année en circulant dans la rue, là, on touche pas au lobby des gens qui nous empoisonnent.
Si, il y a des effets.
On peut pas tout interdire. Merci Guy, en tout cas d'avoir été avec nous. On va terminer avec Valérie qui nous appelle de Cornille, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Il fait beau en Bretagne, Valérie?
Eh ben oui, tout à fait.
Mais bien sûr.
Non, c'est pas la Bretagne.
Je préférais qu'il pleuve un peu, mais voilà, il fait très beau.
On manque d'eau en Bretagne.
On manque d'eau en Bretagne. Ah bon. Ça, c'est l'info du jour, vous voyez.
Exactement.
Valérie, alors vous êtes fumeuse, Valérie.
Alors, moi, j'ai 50 ans. Je suis fumeuse depuis des années. Je me suis arrêtée, j'ai repris, pour des raisons, voilà, comme tout le monde. Bon, je fais aussi ce qu'il faut pas parce que je fais partie des gens qui fument. Quand une vieille voiture diesel, parce que j'habite au fin fond de la Cambrousse, donc il n'y a pas de bus, il n'y a rien, et j'ai pas assez d'argent pour m'acheter une voiture électrique, et d'ailleurs sur laquelle je suis contre. Mais bon, bref, c'est pas l'objet.
Non.
Mais oui, par rapport à la cigarette, moi je suis un peu furax, parce que je trouve qu'on met tout sur le dos des fumeurs, mais par contre on ne met pas du tout sur le dos de l'État et des lobbies, comme disait Pierre Collégas, parce que si on voulait vraiment, si l'argument c'était médical, qu'on veut plus que les gens fument parce que c'est pas bon pour la santé, dans ces cas, on arrête la vente de tabac.
Et puis
on dispense des traitements anti-tabac, comme c'est un petit peu le cas pour faire une démarche, etc. C'est pas si évident que ça, de trouver un tabacologue, etc. C'est pas si aisé que ça, contrairement à ce qu'on dit. Donc, si c'était purement médical, voilà. Et l'autre argument qui est de dire aussi, mais il y a des milliers de morts dues au tabac, au cancer et tout. Mais j'ai envie de dire la grosse hypocrisie par rapport à l'alcool, parce que au final, il y a tout autant de morts aussi, que ce soit sur la route ou de maladies liées à l'alcool. Et si l'argument c'est de dire aussi que l'image pour les enfants, c'est pas beau, c'est caca de fumer, donc faut pas qu'ils voient les gens fumer. Bah dans ces cas-là, faut pas qu'ils voient les gens boire non plus. Donc faut plus que les gens boivent chez eux, non plus de l'alcool et d'apéro, parce que c'est pas bien pour les enfants. Ni une terrasse dans la rue, parce que c'est pas bien pour les enfants de montrer qu'on peut boire de l'alcool en terrasse, en plein milieu d'après-midi. Enfin, tout ça, je trouve que c'est une vaste hypocrisie, et on est de plus en plus
dans
le... Excusez-moi, je suis un peu émue de parler comme ça, alors du coup j'ai la voix qui tremble.
Non mais c'est très intéressant ce que vous dites, Valérie, et je vois Péricot qui acquiesce vigoureusement.
Mais oui, mais c'est que du bon sens ce que dit Valérie.
Voilà, et moi ça me choque parce que par exemple je suis fumeuse, mes deux filles ne fument pas, elles ont 21 et 18 ans, parce que justement j'avais l'expérience d'être une fumeuse et j'ai pu leur expliquer à quel point, je leur ai montré et je leur ai dit à quel point c'était compliqué une fois qu'on commence à fumer, à quel point c'était compliqué de s'arrêter, à quel point maman elle a les cheveux qui sont le tabac, à quel point maman ça l'agace de sentir le tabac, ça l'agace d'être esclave de la cigarette et que ça coûte cher. Et du coup mes filles, elles sont dans la compréhension de mon addiction et elles sont surtout dans le rejet du tabac.
D'accord.
Et aucune des deux ne fume, aucune des deux ne boit, parce que justement j'ai un exemple d'une maman qui galérait avec la cigarette.
D'accord.
Donc je trouve ça bête de dire que quand un enfant ou un ado voit quelqu'un fumer, voire de l'alcool justement, il va devenir alcoolique et fumeur. Non, c'est pas vrai.
Mais vous avez raison de faire l'analogie. Merci en tout cas, Valérie, pour ce témoignage. On vous a posé la question, tiens, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Estelle Midi, faut-il interdire le tabac dans l'espace public, Rémi?
C'est extrêmement partagé. C'est le non qui l'emporte, mais seulement à 55%.
Ah, on est dans la marge d'erreur. Ouais. C'est un débat extrêmement clivant. Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On va se demander si on protège suffisamment les femmes. Deux nouveaux féminicides ont eu lieu ce week-end en France. Les supermarchés jouent-ils vraiment le jeu avec l'inflation? Et puis, faut-il une loi pour protéger nos campagnes? C'est le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a évoqué l'idée d'une loi pour que les Parisiens arrêtent d'emmerder les agriculteurs. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi. Et c'est le moment du meilleur d'RMC, justement, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commande tous ces meilleurs moments sur RMC avec Rémi Barré, Perico Légas, Jérôme Lavrieux et Fred Hermel. On va commencer tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin. Protège-t-on suffisamment les femmes en France? Ce week-end, deux féminicides ont eu lieu dans notre pays. Dans les deux cas, les victimes avaient porté plainte à la police. Mais une fois de plus, cela n'a pas suffi. Un problème de prise en charge pour Sandrine Boucher, elle est présidente de l'Union nationale des familles de féminicides.
Porter plainte, ça suffit pas. On voit bien dans ces deux féminicides qu'il y a un réel problème avec la prise en charge et le suivi des auteurs, puisqu'on n'a pas su évaluer correctement le danger pour ces deux femmes. Alors là, je pense pas que ce soit qu'on sache pas entendre ce qu'elles disent, puisque les plaintes ont été prises, mais c'est le délai de traitement qui pose problème. Chaque femme qui vient dans un commissariat dénoncer des violences doit repartir avec quelque chose. Il existe des dispositifs, alors le téléphone grave danger, mais qui est demandé via l'avocat, mais il existe des petits dispositifs comme par exemple le bouton Mon Shérif, qui est un bouton d'alerte. Il faut que chaque femme, quand elle sort du commissariat, elle ait quelque chose qui puisse alerter en cas de danger.
Perico, les gars, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des cas de féminicide, on voit que les femmes ont porté plainte, qu'il ne s'est rien passé, qu'elles ont été tuées par leur mari, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on en fait assez en France? On voit qu'en Espagne, par exemple, il y a des lois qui protègent beaucoup plus les femmes.
L'Espagne est toujours un exemple, parce qu'il faut voir d'où il venait, le machisme espagnol. Il y a une évolution majeure. Est-ce que nos services publics concernés n'ont pas vraiment besoin aujourd'hui d'une formation? Je pense que ça vient de là.
Il y a une formation.
Elle ne marche pas. Donc c'est pas une formation, mais que M. Dupond-Moretti, M. Darmanin prennent le taureau par les cornes et qu'on fasse vraiment une prise de conscience. Là, je verrais une vraie campagne, vous voyez, de conscientisation à tous les niveaux, même sur à l'école, dans les mairies. Voilà, aujourd'hui, on continue à tuer des femmes. Nous disions tout à l'heure, il y a un enfant qui est tué par ses parents tous les 5 jours et des femmes meurent comme ça, mais comme des mouches.
Oui.
Comme des mouches. Et c'est quoi? C'est un fait divers. C'est une tendance sociétale.
Il y en a eu 104 en 2022.
Non, mais c'est pas possible.
Selon un décompte de West France, 104 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France. Donc, et encore, ce chiffre, il ne recense que les faits avérés.
C'est ça.
Voilà, République française 2023.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'une femme porte plainte au commissariat. C'est-à-dire que déjà, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place d'hébergement en France. Donc, de toute façon, même elle voudrait quitter son domicile, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'on ne peut pas l'héberger. Donc, déjà, elle est obligée de rester chez elle. Ça veut dire quoi? On met le mari en prison? Qu'est-ce qu'on fait?
Non. Il y a des services sociaux, il y a des organismes, il y a des entités qui existent en France.
Et ça fonctionne bien, ça peut-être?
Il faut peut-être des hommes. Je veux dire, il y a des sommes à mettre aujourd'hui dans le fonctionnement de l'État, on dit.
Emmanuel Macron est premier 1 milliard, hein. Personne n'en a vu la couleur. Hein.
Voilà, j'allais y venir. Je pense qu'il y a des investissements à faire au-delà du quoi qu'il en coûte, qui sont de nécessité première pour des questions de survie. On n'est même pas sur des questions de fin de mois ou d'inflation. Là, c'est la survie d'êtres humains qui sont des femmes, des citoyennes de la République française ou des gens qui ne sont pas citoyennes mais qui habitent en France, qui ont une protection et qui continuent à mourir sous le coup d'assassins. C'est-à-dire qu'on a des assassins en libre, voilà, en potentiel, en libre, comme des chauffeurs de la route. Mais eux, ils tuent leurs femmes ou leurs enfants, c'est quelquefois les mêmes. À ce stade-là, c'est pas normal. Et je trouve que la légèreté avec laquelle on le commande, même s'il y a une mobilisation, une prise de conscience, dénote qu'il y a quand même une espèce de malaise dans cette société. Et finalement, c'est une fatalité. Non, c'est pas
Mais vous rendez compte, moi, je me mets à la place de ces femmes. Vous allez au commissariat, vous dites, mon mari me tape dessus, il me menace de mort, on vous dit, ok, madame, on prend votre plainte et puis retournez chez vous, on verra ça demain.
C'est pas possible. Il y a 6 cas d'actualité l'an dernier où elles sont allées et elles ont été tuées dans les jours suivants.
Mais bien sûr. Frère Hermel, on fait quoi?
Alors, il y a deux niveaux, en fait. Il y a l'urgence et puis il y a le plus long terme dans l'éducation. L'urgence, c'est que, c'est pas possible qu'une femme qui aille chez les flics en disant j'ai peur puisse retourner chez elle. Non, mais ça, c'est tout simplement pas possible. Après, l'arsenal législatif, il existe déjà. Après, ce sont les moyens, etc. Il faut absolument. Mais pourquoi, dans ce cas-là, une chambre d'hôtel, quoi? Pourquoi est-ce que l'État, il n'y a pas une possibilité, s'il n'y a pas de lieu d'hébergement, de pouvoir être dans une chambre d'hôtel, quoi?
Mettre un bracelet tout de suite au mari pour qu'il puisse s'approcher.
Ça, c'est une décision de justice, donc ça prend du temps, etc. Non, mais je veux dire, simplement, le fait que la femme qui soit menacée ne retourne pas chez elle.
C'est ça.
Ça, c'est la première chose pour éviter ce que disait Perico la semaine dernière, enfin, les cas récents. Ensuite, il y a la question de l'éducation qui est à plus long terme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de féminicide, on parle de meurtre de femmes dans le cadre d'une relation. C'est ça le truc, c'est-à-dire que les femmes, c'est-à-dire que c'est la relation de couple.
Non, être tué par son mari, c'est pas une relation de couple, non. Pardon.
Non, mais je veux dire, les féminicides, la plupart des féminicides.
Oui, c'est à l'intérieur du couple.
Conjoint ou ex-conjoint.
C'est-à-dire que ce sont conjoints ou ex-conjoints. Oui. C'est-à-dire c'est né d'une relation. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'éducation à faire des garçons, leur dire. Cette idée de possession, parce que des hommes tuent parce qu'ils pensent qu'ils possèdent leur chose, et quand leur chose ne veut plus d'elle, ils la tuent. Voilà, je résume un peu, mais on est dans ce cadre-là. Donc, il y a à long terme une question d'éducation des garçons dans le rapport à la femme, et aussi dans l'éducation des filles, pour arrêter la fascination pour les machos aussi.
Mais arrête avec ça, ça va pas. Mais tu peux pas dire ça. T'es pas forcément un macho quand tu tues ta femme.
Mais attendez, c'est pas du machisme, c'est terrible ce que tu dis. J'ai dit qu'il faut éduquer les hommes dans le rapport aux femmes.
C'est pas nous les femmes qu'il faut éduquer pour éviter de tomber sur des...
On sait très bien qu'il y a aussi une fascination de la société.
Il y a la plupart du temps des femmes qui sont amoureuses de leur conjoint et au départ le conjoint il n'est pas comme ça.
Oui, mais quand il
devient, ça vient avec le temps.
Non mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, il y a deux niveaux. Je veux dire, l'urgence et après l'éducation. Parce que l'urgence ne se réglera que s'il y a de l'éducation.
Tu crois que le mec quand il sort avec il te dit je suis un bad boy, je vais te taper dessus.
De toute façon, c'est impossible de toucher ce sujet-là. C'est impossible de toucher. Il y a une éducation à faire de tout le monde, des garçons et des filles.
Mais des garçons, pas des filles.
Ah bah ok, on n'éduque pas les filles.
Mais les filles, c'est des... Mais attends, mais tu peux pas dire ça.
Mais non, mais on ne peut pas éduquer, par exemple, ou expliquer aux femmes que... Je sais pas, un mec qui un jour, au premier moment où il est un peu dur avec elle, etc., doit se casser. Ça, on peut pas l'éduquer, okay, ça, par exemple.
Oui, mais ça c'est pas de la fascination pour les bad boys, ça n'a rien à voir. C'est ça que je veux te dire.
Alors, c'est tes termes qui me choquent. Mais dans ce cas-là, mais c'est pas normal parce que
il faut te dire qu'à la première claque,
mais même à la première attitude machiste, à la première attitude de tu vois de rabaissement, etc. Voilà, c'est une relation qui est mortifère.
Voilà, mais ça n'a rien à voir avec.
Qui conduit pas forcément à la mort, mais qui est mortifère.
D'accord.
Et donc ça, on a le droit aussi d'éduquer les femmes à ça.
On ne peut pas accepter.
Attention,
on ne peut pas accepter les philosophies où la femme est considérée comme soumise et un être inférieur.
Voilà, exactement.
Vous avez entièrement raison. On n'a pas le temps à perdre à rééduquer tout le monde. Oui. Ça va prendre des décennies. Il faut le faire, mais ça prend des décennies. Et demain, et après-demain, et après-après-demain, une autre femme va mourir. Les choses doivent être simples. L'État achète des boutons d'alerte. Vous allez dans un commissariat. Merci. Vous déposez plainte, elle n'attend pas la décision d'un proc pour mettre un bracelet au mari violent. Voilà, la femme sort, elle a sur elle un bouton d'alerte discret qui est déjà réglé. Quand elle appuie dessus, les flics sont immédiatement prévenus. Ils débarquent dans la minute. Ça coûte 35 euros. Ça s'appelle shérif ou mon shérif ou je sais pas quoi.
Comme pour les vieux présents.
Il y a des régions, il y a des villes qui sont en train d'équiper leur truc. Ça doit être systématique. Le mec, il est à l'accueil du commissariat, il va à l'OPJ, il dépose la plainte, j'ouvre le tiroir, il y a 50 boutons qui sont déjà préparés. Vous repartez avec. Ça coûte 35 euros, ça coûtera moins cher à la collectivité que de gérer après. Vous sortez dans 200 mètres, il n'y a pas besoin d'être chez soi, votre mari essaie de vous rattraper. Dans votre poche, vous mettez votre main, vous appuyez discrètement sur le bouton, les flics arrivent 5 minutes après. Voilà, déjà ça c'est la mesure d'urgence à faire, équiper tout le monde. Et après on a le temps de rééduquer,
Oui, c'est bon, l'urgence et après l'éducation.
Je veux bien rééduquer, j'ai entendu une féministe qui nous a dit ce week-end que c'était l'héritage judéo-chrétien. Il va falloir me démontrer que c'est judéo-chrétien de taper sa femme. C'est stupide de dire ce genre de conneries. L'urgence c'est comment, techniquement... basiquement, on fait en sorte de limiter les possibilités de rencontre avec le mari violent. Après, la justice examine. Elle regarde si c'est vrai, si c'est pas vrai, s'il y a un divorce, s'il y a des choses qui se passent mal, si on instrumentalise pas, etc. Elle prendra son temps pour le faire. Mais en attendant, vous sortez du commissariat, vous avez votre dépôt de plainte et vous avez le bouton d'accueil.
Apolline Matin, ce matin, on va parler d'inflation. Les supermarchés jouent-ils vraiment le jeu? Le gouvernement a laissé le choix aux distributeurs de proposer leur propre panier anti-inflation. Certains proposent donc des produits du quotidien à prix bloqué et d'autres enseignent des produits à moins de 2 euros. Mais les consommateurs rencontrés par RMC ne se font pas d'illusions sur cette opération.
C'est des produits qui n'auraient pas forcément augmenté plus que 2 euros. C'est bien qu'ils le fassent, mais c'est uniquement, à mon avis, pour être le bon élève et essayer de se faire bien voir.
Julie, elle, regrette que le gouvernement laisse les enseignes faire leurs propres opérations.
C'est un peu fuir ses responsabilités. Parce qu'on sait très bien que les enseignes, ils auront leur marge, leurs choses, et comme c'est au bon vouloir, finalement, nous, on n'aura rien.
Perico Legas, est-ce qu'il faut se faire des illusions sur cette opération anti-inflation?
Il y avait un panier anti-inflation qui aurait dû être destiné à un certain nombre de gammes de produits marquées. Finalement, la grande distribution, après avoir vu Monsieur Le Maire qui avait son col roulé, ça il a tenu parole.
Oui.
Finalement, c'est la grande distribution qui applique son système et son programme et sa méthode. C'est elle qui choisira les produits. C'est une catastrophe, c'est-à-dire et c'est elle qui choisira les produits et la baisse, l'ampleur de la baisse. Qu'est-ce qui me prouve que ces grandes enseignes ne vont pas, une fois de plus, faire payer, pas tout de suite, les fournisseurs et les transformateurs? On a une loi Egalim qui interdit à la grande distribution de faire de vente à perte ou en tout cas de faire des marges trop basses, de 10%. C'est-à-dire qu'on contourne la loi Egalim pour dire à l'opinion publique, voyez, on va baisser les prix un peu comme une obole. Et finalement, ce sont quand même les grands distributeurs dont Monsieur Le Maire nous explique qu'ils vont perdre des centaines de millions d'euros. Mais qui le croit?
Ils grognent bien sur leur marge.
Mais attendez, ils prendront des représailles très vite, d'une autre façon, et ils feront une augmentation sur les prix, où ils demanderont aux industriels de leur compenser par autre chose. Voilà. Donc, ils ont eu gain de cause sur toute la ligne, et en plus, ils apparaissent pour ceux qui font un sacrifice et qui font un geste vis-à-vis du consommateur.
Oui, mais s'ils passent un produit de 4 à 2 euros, c'est toujours bien pour le consommateur. Et en plus, là, pour le coup, c'est pas avec les impôts, tu vois. Donc...
Alors, de 4 à 2 euros, est-ce que c'est au détriment de la qualité? Est-ce que c'est au détriment du fournisseur.
Et aussi sur des produits d'hygiène, notamment sur des couches, tu vois.
Je veux savoir, alors, on nous dit 3 mois, c'est énorme, jusqu'au 30 juin. Qu'est-ce qui va se passer le 1er juillet?
Ça reviendra quand même.
Ben, non, puis surtout, ils vont rattraper le pognon perdu, ça, quand ils...
Vous y croyez, vous, Jérôme Lavrieux?
Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne mesure. Et elle intervient au bon moment, puisque les négociations entre les producteurs, les industriels et les distributeurs sont terminées de par la loi. D'accord. Les prix pour les produits alimentaires, etc., sont, les produits transformés sont fixés. Il ne s'agit pas de promettre des ristournes, c'est de promettre sur un certain nombre de produits qui n'augmenteront pas les étiquettes. Il n'y aura pas de valse des étiquettes, comme on disait dans les périodes où il y a des grosses inflations, dans les 3 mois qui viennent. L'objectif pour le gouvernement, c'est de dire sur un certain nombre, et là on n'est pas 40 produits, on est 100, 150, 300. Il y a eu des invités sur toutes les chaînes info qui sont venus ce matin pour le dire. Et ça permettra aussi aux gens de comparer sur ces produits-là, celui qui augmente ou qui augmente pas. On a un prix de référence et on verra dans 3 mois s'ils ont tenu parole ou pas. Ça permet de passer le pic qu'on espère être celui de l'inflation, puisque au mois de juin, on aura plus le coût de l'énergie qui pèsera autant, puisqu'on sera plus en train de se chauffer. Donc on va pouvoir baisser un petit peu le niveau de dépenses pour les Français. Et après, on verra s'il y a besoin d'un rattrapage.
Allez, dans un instant, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. On continuera à parler d'inflation, mais on vous dira comment faire des économies grâce à des applis, justement, anti-inflation. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
49 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment de parler conso et économie avec Stéphane Pedrazzi.
RMC, Estelle Midi,
la Minute Conso.
Et on s'intéresse à l'actualité avec vous, Stéphane. Le gouvernement lance un trimestre anti-inflation pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Et évidemment, il va y avoir des bons plans, certainement, pour faire des bonnes affaires.
Oui, parce qu'on s'attendait à un mars rouge, mais on a déjà eu un février qui n'était pas trop mal. 14,5% l'inflation alimentaire sur un an au mois de février. Selon les chiffres de l'INSEE, mais qui ont aussi été confirmés par le baromètre IRI-LSA. Alors, le gouvernement, si vous l'avez suivi ce matin, a passé un accord avec les principales enseignes de grande distribution qui vont proposer une série de produits au prix le moins cher, au plus bas possible, et qui seront signalés en rayon par un beau logo anti-inflation, trimestre anti-inflation, avec une précision importante, ce sera un effort des distributeurs. Il n'est pas question, en tout cas comme ça a été présenté, que ce soit les producteurs qui fassent cet effort financier.
Mais alors, je comprends pas, ça n'a rien à voir avec le panier anti-inflation que le gouvernement voulait faire, en fait.
Alors, ça, personne n'en voulait. Les distributeurs ne voulaient pas du panier anti-inflation. C'est un panier dont la liste des produits aurait été fixée par le gouvernement. En fait, on a laissé cette latitude aux distributeurs de fixer librement ce qu'ils considéraient comme être des produits essentiels pour notre consommation. Il a été précisé aussi que la liste des produits pourra changer d'une région à l'autre. Donc, ça sera pas forcément la même chose en Bretagne ou en PACA. Et le gouvernement a également annoncé ce matin une deuxième vague de négociations avec les producteurs et les distributeurs. Vous savez que normalement ça se fait une seule fois par an. Et bien là, il y aura une nouvelle vague de négociations dans la deuxième partie de l'année pour, si jamais le prix de l'énergie continue à être baissé et le prix des matières premières également, ajuster à la baisse cette fois-ci le prix des produits dans les magasins. Donc alors, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, à condition évidemment que la baisse des prix de l'énergie se confirme.
Parce que j'allais vous dire, là on se dit, tiens, mais quelle bonne nouvelle pour nous consommateurs. Mais évidemment, il y a des effets pervers, bien sûr.
Alors il y a plein d'effets pervers. D'abord, Bruno Le Maire a annoncé qu'il y aurait des contrôles pour vérifier que ce sont bien les distributeurs et non pas les producteurs qui font un effort financier. Et c'est la DGCCRF qui va s'occuper des contrôles. Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. Donc c'est très sérieux.
Enfin, ils sont 12.
Exactement. Ça n'aura échappé à personne. Ils sont très peu nombreux et leur périmètre est très large. Donc les contrôles, ils vont forcément être très limités. Donc on se dit que, bon, il y aura quand même des contrôles qui seront sans doute médiatisés, mais ça va être réduit. Ensuite, est-ce que c'est pas une première brèche dans la loi Egalim? Vous savez, cette loi qui a été mise en place en 2018, l'objectif, c'était de protéger les distributeurs. Mais là, si on, et avec une règle notamment, c'est d'imposer une marge d'au moins 10% sur les produits alimentaires. Si on fait sauter cette clause, bah, c'est une première brèche. Et donc, cette loi qui était censée protéger les producteurs, effectivement, elle a déjà du plomb dans l'aile.
Alors, la grande crainte aussi, c'est que, en fait, on dégrade les produits. C'est-à-dire que ce soit des produits bas de gamme, finalement, qui soient en réduction, on va dire.
Oui, et vous savez, les industriels, ils modifient régulièrement les recettes des produits, pour plusieurs raisons. Alors, ça peut être pour s'adapter à la législation, si d'un seul coup, un additif est interdit. Ça peut être pour s'adapter aux difficultés d'approvisionnement. Si vous trouvez plus un ingrédient ou difficilement, ben, vous le changez. Et puis, ça peut être, et ça, c'est la principale raison, cause, ça peut être pour s'adapter à la hausse du prix de certains ingrédients, pour trouver des recettes moins chères. Prenez l'exemple du sucre. Le prix du sucre a augmenté de 45% en un an. Et de 100% depuis 2020. Il a été doublé, le prix du sucre. Et donc, les industriels cherchent à le remplacer. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent à la place? des édulcorants.
Oui, de la stévia.
Voilà, de la stévia, mais ça coûte encore assez cher, la stévia. Mais ils trouvent des édulcorants, de la sucralose, par exemple, qui est autorisée, et qu'on met dans les produits à la place pour que ça coûte moins cher.
Et c'est marqué, ça ?
C'est écrit dessus, mais forcément, mais tu vas pas faire attention. Ouais. La liste des ingrédients, elle est écrite en tout petite. On peut aussi trouver, je sais pas, l'exemple de la boîte de ravioli à la place de la viande, on va mettre de la de la protéine de soja. Oui, ça c'est chez Sanghero, mais ça ils ont été condamnés, je crois. Mais on peut mettre par exemple de la protéine de soja, ou on peut mettre tout simplement plus de sauce dans la boîte, et il y aura tout simplement moins de ravioli et moins de viande. Et puis il y a le risque, et on en avait parlé, de shrinkflation. Tu sais,
ah, oui.
On garde le même emballage, mais on réduit la quantité de produits à l'intérieur. Comme ça, le consommateur a l'impression que le prix n'a pas bougé. Mais en réalité, le prix au kilo, il a explosé. Voilà.
Et comment est-ce qu'on s'y trouve, nous, consommateurs, Stéphane ? Parce que là, ça a l'air quand même très, très, très compliqué.
Alors, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est comme la liste des produits avec ces réductions, on va dire exceptionnelles, ne sera pas la même chez tous les distributeurs, c'est l'occasion de faire jouer la concurrence et d'aller picorer à droite et à gauche pour essayer de trouver ce qui est le moins cher chez Leclerc, chez Auchan, chez Carrefour.
Ah.
Il existe beaucoup de comparateurs sur Internet, donc il faut s'en servir. J'entends comparateurs indépendants, certains ne sont même pas français. Donc l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas affiliés à une chaîne de magasins. Suivez mon regard, il y en a un qui en avait lancé un. Alors il y a Le Bon Drive, par exemple, Idéalo, Le Dénicheur, Acheter Moins Cher, et puis bien sûr UFC Que Choisir.
Ah, très bien.
Évidemment, UFC Que Choisir qui propose non seulement un comparateur, mais on peut compter sur eux, et d'ailleurs comme toutes les associations de consommateurs, pour être vigilant et s'assurer que ce qui a été annoncé ce matin, c'est pas une grande campagne de com, mais que c'est suivi des faits dans les magasins. Eux font régulièrement des relevés et seront capables de vous dire si oui ou non le panier de ces produits, le prix a effectivement baissé. Une précision quand même, vous aurez peut-être remarqué que Leclerc n'y était pas à
mais
Bercy.
Mais oui, c'est bizarre.
Avec aux côtés de Carrefour
mais
et des autres distributeurs. Michel-Édouard Leclerc a expliqué qu'il n'avait pas attendu Bruno Le Maire pour pratiquer les prix les plus bas du marché.
Bien joué. En termes de com, bien joué à nouveau.
En tout cas, ça pose question.
On parle de quoi demain, Stéphane ?
Du Nutri-Score qui va faire peau neuve, le Nutri-Score, parce qu'il y avait quand même des aberrations. Un produit avec de l'aspartame était mieux noté qu'un produit avec du sucre.
Oui, mais enfin, le produit avec du sucre, il fait plus grossir qu'un produit
et
avec
l'aspartame, bon. Oui. On en pense qu'on veut.
D'accord. Bah, écoutez, on verra ça demain. Ça va passionner Perico Légas. Évidemment, merci beaucoup, Stéphane.
Je suivrai.
Pedrazzi, tous les jours, la Minute Conso, dans Estelle Midi, aux alentours de 13h50. Dans un instant, si on parle de Nutri-Score, nous, on va parler du boom des fast-food en France. Est-ce qu'il faut limiter le nombre d'établissements de restauration rapide dans nos villes? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.